L'énume, l'update, l'essentiel de la tech. Sur place ou à emporter.
La technologie avance, on vous aide à la rattraper, c'est Julien, bienvenue dans l'update saison 2. Au menu cette semaine, on parlera IA, données personnelles et réseaux sociaux avec Bastien, notre journaliste vidéo. Un petit rappel avant de commencer, tous les vendredis, vous retrouvez un nouvel épisode sur le site des numériques et sur les principales plateformes de streaming. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne rater aucune émission. Chaque semaine, avec mes invités, on passe en revue l'actu tech de ces derniers jours, l'occasion de faire le point sur les nouveautés technologiques de demain, qui pour le coup, sont celles d'hier. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Bastien Lyon. Le gars est vraiment partout, sur Twitch, sur les réseaux et maintenant dans le podcast. Comment ça va, mec ?
Eh bien, ça va très bien. Merci de m'avoir invité.
Pour commencer, j'aimerais un petit peu que tu nous expliques ton rôle au sein de la rédac chez Les Numériques et qu'on parle aussi de ton périple sur la côte ouest des États-Unis. Ça, on va en parler un petit peu après.
Eh bien, moi, en fait, je suis journaliste vidéo. On a une configuration un peu particulière chez Les Numes parce qu'on a un incarnant vidéo, donc c'est moi, et on a un réalisateur et un monteur. Après, tout le monde fait un peu de tout aussi à côté. Mais dans l'idée, moi, je suis incarnant vidéo. Donc, c'est moi qui présente les vidéos. Je fais quelques live Twitch et j'aide aussi les gens de la rédac quand ils ont des vidéos à faire pour écrire leur script, etc. Et aussi pour les guider un peu, etc. S'ils ont des besoins particuliers.
Donc, ça t'a amené au CES 2026 à Las Vegas. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce séjour, ce que tu as pu y voir déjà ?
Eh ben, au CES, on a vu pas mal de trucs, on a beaucoup marché, hein, c'est toujours le grand truc, les 20 000 pas sont atteints quasiment tous les jours. Mais surtout, ce qu'on a vu beaucoup, c'est... Alors moi, ce qui m'a un peu marqué sur cette édition-là, pour le coup, c'est les robots. Mm. Bon, il y a toujours eu des robots dans les salons comme ça, mais cette année, il y en a vraiment eu beaucoup, et on sent que c'est vraiment en train de se perfectionner. On en a vu qui se battent, on en a vu qui font des roulades, on en a vu qui dansent, enfin, il y en a vu qui font plein de trucs. Rien de très utile pour le moment, mais on sent que ça se précise un peu et que... dans les années à venir, ça devrait être vraiment encore plus impressionnant et on voit très bien les applications que ça peut avoir et c'est aussi bien fascinant qu'inquiétant, quoi, on va dire.
Un petit T800, quoi.
Un petit T800, exactement.
Alors, tu n'as pas seulement été au CES, tu en as profité pour prolonger ton séjour et je connais ton amour pour les parcs d'attractions. Tu as été faire un petit tour à Universal Studios à Los Angeles.
Effectivement, c'était la deuxième fois que j'y allais. J'étais allé à Los Angeles pour mes 18 ans. Donc, tard l'époque.
Il y a eu un gap entre les deux déjà.
Il y a eu un gros gap entre les deux, ça faisait 14 ans. Donc les gens pourront calculer mon âge comme ça. donc du coup, ouais, j'y suis retourné 14 ans plus tard. Ça a beaucoup changé, mais pas tant que ça au final. Il y a toujours, parce que c'est un parc qui est un peu particulier avec une configuration en deux étages. Enfin, tu connais aussi, de toute façon. Et pour le coup, c'est un peu les numériques corps parce que c'est beaucoup d'écrans, quoi. Beaucoup d'écrans partout. Donc c'était chouette. C'est pas le meilleur parc que j'ai fait dans ma vie, mais c'était chouette quand même.
Avec toute la hype qu'il y avait autour de Super Mario, Nintendo, est-ce que tu as ressenti toi aussi cette hype ou tu as été un peu déçu ?
J'étais hyper content d'y aller.
Ouais.
C'est sûr, c'est le premier Land Mario que je fais parce que j'ai pas fait il est aussi en Floride et au Japon, mais je les ai pas encore fait. Donc j'étais vraiment content d'y aller. Tu as quand même le truc un peu. En plus, on a vraiment. J'étais avec Karl que. Peut-être les auditeurs connaissent qui travaillent aussi chez les numériques. Ouais. Et du coup, on a repoussé vraiment le moment où on allait y aller parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, on y allait en fin de journée. Et c'est vrai que le moment où tu passes dans une espèce de tuyau pour aller jusqu'au truc, ça, c'est un peu stylé. En plus, tu as le petit bruit
complètement. C'est super immersif.
C'est très immersif. Et tu arrives dedans et c'est très joli. Maintenant, c'est petit déjà. C'est vraiment très petit.
Il n'y a qu'une attraction.
Il n'y a qu'une attraction, mais même au-delà de ça, c'est vraiment petit. Tu vois, je compare ça avec... j'ai fait Disneyland Shanghai, et là-bas, il y a un Land Zootopie, qui est pareil, c'est aussi un Land avec une seule attraction et pas d'autres trucs particuliers. Il y a un resto, etc., comme le truc Nintendo, mais c'est quand même plus grand, beaucoup plus détaillé. Et surtout, en fait, le problème de celui d'Universal Studios Hollywood, c'est que c'est la disposition même du parc qui fait qu'en fait...
C'est très excentré, déjà.
C'est très excentré, et tu vois tout ce qu'il y a autour. Tu vois en haut des murs en fait, parce que t'es entouré dans une espèce de cuvette qui est censée te justement renfermer.
Une sorte d'arène en quelque sorte.
Et du coup, en fait, là, tu vois vraiment tout autour. Tu vois les studios, le studio qui est juste au-dessus, tu vois les escalators au fond. Enfin, et donc ça
enlève un petit peu de la magie.
Ouais. Et en plus de ça, malheureusement, j'ai pas trop aimé l'attraction. Je pense que c'est même ce qui m'a le plus déçu à Universal Studios Hollywood, c'est l'attraction Mario Kart. Qui est. Où tu te dis, on va faire une attraction Mario Kart, qu'est-ce qu'on va faire, un truc qui va vite, etc. Non, c'est juste un truc où tu es sur des rails et toi, tu l'as fait aussi, je sais pas.
Ouais, je l'ai fait. Ouais.
Et c'est vraiment un mélange entre Ratatouille et Buzz l'éclair pour prendre des trucs que les gens
C'est exactement ça. Ouais.
Et, sauf que c'est ni l'un ni l'autre. et qu'ils ont essayé d'avoir un système un peu futuriste, avec, enfin un peu futuriste, mais un peu moderne en tout cas, avec une visière, avec une espèce de truc un peu en réalité augmentée, etc. Et ça marche pas très bien, je trouve.
Non, et puis c'est pas forcément bien expliqué non plus. C'est-à-dire le principe en lui-même, il est un peu flou. Bon, à contrario, il y a quand même des attractions que t'as kiffées.
Ouais, bien sûr. Bah, moi, en fait, ce que j'aime dans les parcs, c'est les trucs physiques, quoi. Donc, même si les trucs avec des écrans, il y a des super, hein. Les Simpsons c'est super, Transformers c'est super, pas de problème.
Les Simpsons, mais... pourtant, c'est assez vieillot et au final, ça marche encore.
Ouais, ça marche encore très bien, je trouve. Et surtout parce que pour le coup, je trouve que le land de Simpsons est vraiment cool. Il y a plein de refs pour les gens qui aiment bien les Simpsons, et j'en suis. Il y a plein de refs assez chouettes et tout, donc c'est vraiment bien. Mais bon, moi, ce que je préfère, c'est le tram tour, le tour
studio tour. Avec Jimmy Fallon.
Avec Jimmy Fallon, avec Steven Spielberg, avec Jordan Peele, enfin, que des gens super. Et qui est vraiment, bah, c'est cool, quoi, tu vois, c'est un studio qui fonctionne vraiment, donc même si c'est à plus petite échelle que ce qu'il y a un peu autour, notamment Warner, etc.
Il faut savoir qu'il y a vraiment pas mal de films qui se tournent et de séries pendant que les gens sont en train de... Oui, et de pubs, pendant que les gens sont en train de visiter le parc d'attractions. Donc ce tour-là a tendance à muter, le parcours change régulièrement en fonction des tournages et des endroits qui sont pris et réservés pour les tournages de cinéma.
Donc ça, c'est incroyable. Et après, bah, j'ai dit les trucs physiques, donc Jurassic Park, Jurassic World maintenant. Parce que quand je l'avais fait, c'était Jurassic Park à l'époque. Mais et donc, qui est juste un splash tout simple où tu montes dans un truc et tu croises plein de petits dinos animatroniques qui sont super bien faits. Et à la fin, il y a une montée de la tension énorme avant la descente. Enfin, c'est incroyable. Et Waterworld.
Voilà, je voulais en venir là.
Et Waterworld.
Est-ce que c'est pas un des meilleurs spectacles?
Eh ben,
j'en ai pas fait autant de toi des parcs d'attractions, mais
j'ai réfléchi hier soir.
C'est vrai.
j'aime bien me faire mes classements dans ma tête. Et j'ai réfléchi au spectacle que j'ai vu et je pense que... Alors là, du coup, je suis obligé de parler du Puy du Fou, qui est un parc qui a plein de problèmes idéologiques, etc., mais qui sait faire des spectacles. Ouais. Et je pense qu'il n'y a que au Puy du Fou que j'ai vu des trucs qui sont aussi bien que Waterworld, voire un peu mieux peut-être. Enfin, le Mime et l'Étoile, notamment, au Puy du Fou, c'est un truc qui est vraiment très, très, très bien.
Juste le sous-texte qui est parfois un peu...
Et l'avantage du Mime et l'Étoile, c'est qu'il n'y a pas trop de sous-texte, justement. Il n'y en a même pas du tout. Enfin, ça parle un peu de la guerre et tout, mais voilà. Et donc, ouais, ce truc-là, c'est mieux. Mais après, Waterworld, je pense que j'ai fait pas mal de Disneyland et j'ai fait d'autres parcs en Europe, etc. Et c'est vrai que j'ai pas vu de spectacle. Il y a Indiana Jones en Floride, à Hollywood Studios en Floride, mais qui est pas aussi bien, franchement. Et j'ai jamais fait, par contre, Motor Action à Walt Disney Studios.
Ah, je l'avais fait.
Qui paraît qu'il était très bien.
Qui était très sympa, mais encore une fois, non, là, vraiment, la claque Waterworld, c'est quand même...
Bah, Waterworld, ce qui est fou, en fait, pour moi, la preuve que le spectacle Waterworld est incroyable, c'est que, il existe encore, quoi.
Oui.
En fait, c'est un truc qui date des années 90.
Le film, en plus, a flopé, sans mauvais jeu de mots.
C'est même connu, c'était presque devenu un mème à l'époque, en tout cas, parce que c'était tellement un beat que les Simpsons notamment s'en sont beaucoup moqués, etc. Et le truc est encore là et ça marche hyper bien, quoi. Enfin, tu comprends. En fait, c'est une espèce de Mad Max sur l'eau, quoi. Donc, du coup, c'est assez simple, donc c'est assez facile à présenter. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette attraction-là, que j'ai pas vu pour le coup dans d'autres spectacles, c'est que tous les acteurs sont présentés à la fin.
Oui.
Et ils disent oui, alors lui il a joué dans tel truc.
Exactement.
Et tu dis ah oui, il a joué. Bon,
c'est même le cast qui est affiché à la sortie, donc t'as les acteurs et ce qu'ils sont en train de tourner ou ce qu'ils ont déjà tourné.
Et ça, je trouve que c'est cool parce que ça renforce encore plus le côté studio du parc, quoi. Puis ça se trouve, j'ai peut-être vu un mec qui dans 5 ans sera une superstar ou pas.
Pour toi, t'es un peu notre superstar aussi. T'as fait renaître les NUM, l'émission sur Twitch il y a quelques temps avec un premier débat autour des enfants et du temps d'écran. Super émission. Est-ce que ça te dérange de revenir sur l'actu de la semaine? Il y a l'Assemblée nationale qui a voté en première lecture une loi qui fixerait à 15 ans l'âge minimum pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Donc là, ça vient de tomber. Est-ce que tu te dis enfin ou fausse bonne idée?
On en avait parlé justement dans l'émission. C'était parce qu'à l'époque, le projet avait été présenté, je crois, par le gouvernement et devait entrer en vigueur plus tard. Et on en avait parlé et on était tous d'accord pour dire que interdire en général, c'est pas forcément la meilleure idée. Même si ça peut être, accompagné d'autres trucs, ça peut être bien d'interdire. Enfin, ça peut être bien, ça peut être bénéfique, quoi. Mais si juste interdit, en plus à des enfants, à des adolescents et des enfants, si juste interdit, enfin, moi, les trucs qu'on m'a interdit quand j'étais gamin, en général, j'ai tout fait pour les contourner, quoi. Donc,
ça impose un cadre maintenant, ça ne suffit pas.
Ouais, donc pour moi, ce qu'il faut, c'est plus éduquer les gens, quoi. Éduquer les enfants, mais même pas que les enfants, les adultes, il y en a plein aussi qui sont complètement à la ramasse sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Donc, pour moi, il faut apprendre aux gens à utiliser ces outils-là, et ça passe par l'école, ça passe par des organismes de formation, ça passe par des interventions même dans les entreprises. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais il faut mettre de l'argent dedans, et c'est parfois, je suppose que pour le gouvernement, par exemple, c'est plus simple de dire on interdit, ça fait beaucoup de bruit, ça fait très on tranche ferme. C'est beaucoup plus simple de faire ça plutôt que de dire alors on va mettre un peu d'argent là-dedans pour faire de la formation, pour promouvoir des organismes qui parlent de ça. Donc c'est un peu la solution de facilité, et je suis pas sûr de la praticité de la
loi. Justement,
quoi.
Côté application de la loi, toi, tu y crois ? Est-ce que concrètement, on peut respecter cette loi sans la contourner ? Est-ce qu'un mineur ne va pas utiliser un VPN ou le compte des parents ? Est-ce qu'on est réellement capable de faire respecter cette loi ?
Bah, c'est la grande question, effectivement. Je pense que c'est possible dans des pays très répressifs comme la Chine, par exemple. Eux, ils ont réussi à mettre en place des vraies limites, etc. Sauf que eux, ils ont un internet qui est contrôlé par le gouvernement. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile, quoi. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire, j'espère.
Non.
Donc je pense pas que ce soit très facile à mettre en application. C'est exactement la même chose pour moi que l'interdiction des téléphones dans les collèges et encore parce que ça, tu peux. Il y a quand même une dimension physique, donc tu peux quand même forcer, entre guillemets, les élèves à donner leur téléphone, mais c'est aussi comme l'interdiction des sites pornographiques, etc. C'est toujours plein de moyens de contourner les barrières, quoi. Donc
pour toi, on n'est pas obligé de passer par une loi, on pourrait trouver des mesures alternatives.
C'est ça.
Comment on prouve l'âge en ligne sans créer un outil de surveillance ?
C'est toujours la question de là où s'arrête la liberté, où commence la surveillance, etc. C'est la même question que pour les caméras de vidéosurveillance dans les rues. Est-ce que vraiment... Est-ce que c'est utile pour protéger les gens ou est-ce que c'est une atteinte à la vie privée ? C'est toujours la grande question. Après, bon, là, c'est un long débat de philosophie. Mais
t'as ChatGPT qui aimerait y répondre. Hein. Ils ont proposé une sorte de prédiction d'âge pour repérer les utilisateurs supposés mineurs et limiter certains contenus. Est-ce que pour toi, c'est une bonne intention sur le principe ou c'est une pente glissante ?
Bah, tout ce qui touche, parce que j'imagine que pour dresser un profil précis, on va aller voir dans les données personnelles, on va aller voir dans les habitudes d'utilisation sur Internet, etc.
Alors, oui, parle des heures de connexion, des habitudes, des questions posées. En fait, ce serait une sorte d'akinator, en gros. Ce serait vraiment de la...
Bon, ouais. Flashback. Tu m'as fait un choc mental.
Oui, voilà, en gros, ce serait une sorte de prédiction au doigt mouillé, si tu veux. Ouais. Alors, c'est du bon sens ou ça reste plutôt du profilage déguisé ?
Mais moi, je sais pas si... Je pense pas que ce soit du bon sens, déjà, ça c'est sûr. Profilage déguisé, on s'en approche. Surtout, en fait, ça revient à dire une personne qui a ses usages à cet âge-là, à coup sûr, quoi, presque à coup sûr. Sauf que non, enfin, il y a des gens... moi, quand j'étais gamin, je pouvais rester sur Internet jusqu'à 2h du mat à jouer à Akinator, j'en sais rien, par exemple. Et il y a des gens qui sont insomniaques et qui vont toute la nuit sur Internet. Enfin, tu vois, c'est absurde de dire que parce que tu as des usages précis, tu es forcément dans une catégorie de personnes. Quoi. Ça marche pas.
Ça peut créer des faux positifs.
Ouais, c'est ça.
Et justement, si un adulte est pris pour un mineur, il va devoir faire un selfie. Donc, c'est quoi le bon curseur dans ces cas-là entre sécurité et vie privée sur un outil aussi généraliste que ChatGPT ?
En fait, ce qu'il ne faut pas oublier à chaque fois avec ces sujets-là, c'est que ce n'est pas forcément un problème qu'une entreprise... Enfin, c'est un problème, mais admettons qu'une entreprise dise « je vais collecter des infos, des photos, des trucs comme ça, etc. » pour la sécurité notamment. Alors, c'est souvent l'argument de la sécurité des enfants qui est mis en avant. Donc, personne ne va dire « on ne veut pas la sécurité des enfants ». Donc, admettons qu'ils fassent des trucs comme ça et qu'ils disent « on va tout sécuriser, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de fuite, etc. » En fait, il peut toujours y avoir des fuites. Et en fait, imaginons qu'il y a un enfant du coup qui doit faire un selfie, etc. Admettons, il se prend un selfie. Son selfie va sur une base de données. Peut-être que les gens qui veulent faire ça vont dire « oui, mais on va tout effacer, etc. » Pourquoi pas ? Mais si ça va sur une base de données, rien n'est infaillible, en fait. Il peut toujours y avoir des fuites, etc. Et donc, on peut se retrouver avec une base de données avec 60 000 selfies d'enfants à la portée de n'importe quel taré qui peut en faire des mauvais usages ensuite sur Internet, quoi. Donc, ça fait longtemps qu'ils parlent de France Connect pour ça. Il était même question à un moment donné de demander aux gens qui voulaient utiliser Pornhub de mettre d'abord leur France Connect sur Pornhub pour pouvoir... donc Pornhub ou n'importe quel site, hein, bien sûr. Mais en fait, c'est fastidieux pour rien et c'est jamais vraiment complètement safe, quoi. Donc, et encore une fois, France Connect, c'est super pratique pour plein de trucs. Moi, je trouve que c'est vraiment pour le coup bien foutu, l'identité numérique et tout. Pour tout ce qui est service administratif, ça marche plutôt bien. Mm-hmm. Mais il y aura toujours un doute sur est-ce que l'État est capable de sécuriser les données et qu'il n'y ait pas de fuite et de risque de piratage, etc., quoi.
On a parlé de protéger les jeunes de certains contenus, mais il y a un autre risque, c'est la qualité et l'origine des sources que l'IA te sert, en quelque sorte. Il y a une enquête du Guardian qui montre que ChatGPT cite parfois Grokipédia, l'encyclopédie IA de M. Elon Musk, qu'on adore, nous, ici, en numérique.
J'en parle souvent.
Pour ses fake news, ses approximations, sa désinformation. Alors, le papier parle d'un effet, source citée égale source crédible. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu y vois une conséquence plus dangereuse ?
Bah, alors déjà, ce qu'il faut dire sur Grokipédia, c'est que, parce que justement, on avait fait une émission avec des gens de chez Wikipédia quand on avait fait, en décembre dernier, l'énum l'émission, et on avait parlé de Grokipédia, et en fait, ce qu'il faut savoir sur Grokipédia, c'est que, en fait, beaucoup de contenus sur Grokipédia sont pompés sur Wikipédia. Donc en fait, rappelons que Grokipédia dit que Wikipédia, c'est woke et tout, c'est Wokipédia, ben, tout ça... Voilà, mais ça ne les empêche pas d'aller pomper beaucoup de trucs, juste quand c'est des gens qui les intéressent un peu, genre Elon Musk, là c'est beaucoup plus dithyrambique dans la fiche, etc. Ensuite, ta question, c'était sur la gestion des sources de ChatGPT.
Exactement.
Ouais, bah, de toute façon, déjà, ChatGPT affiche pas toujours les sources, et ça, c'est un problème. Et après, moi, je fais le test, on va pas se mentir, enfin, ChatGPT, tout le monde s'en sert aujourd'hui, et nous, on s'en sert dans notre boulot aussi. Sauf que nous, on doit évidemment faire énormément attention justement à ça, à la question des sources. Donc déjà, moi, je lui demande toujours de m'indiquer les sources qu'il me donne. Et souvent, en fait, il me donne des trucs qui sont des liens morts, en fait. Et du coup, je sais jamais. Donc, je clique sur le truc et je me rends compte que la page n'existe pas ou plus. Et donc, je sais jamais à quel point il allait chercher des trucs à droite à gauche et il a essayé de me bidonner un truc. Voilà. Donc oui, non, évidemment, la question de la véracité des sources, elle est importante. Beaucoup de gens mettent en avant Perplexity comme alternative à ChatGPT et à Gemini parce que Perplexity, justement, met par défaut en avant ses sources. Ouais. Donc, je pense que c'est une démarche qui est peut-être un peu plus saine en tout cas que celle de ChatGPT et Gemini.
Maintenant, et plus ostentatoire aussi, c'est-à-dire vraiment ouais. Tu as les points sources, mais tu as aussi à la fin vraiment le listing de tous les sites utilisés, etc., ce qui est quand même plutôt cool.
Oui, ce qui me semble pas déconnant effectivement. Et après, la question des sources, en fait, elle a toujours existé, c'est juste que maintenant tout le monde a accès à une espèce de source de savoir intarissable qui est prête à inventer des trucs pour ne jamais avoir rien à dire. Et donc, cette question des sources, moi j'ai toujours eu des proches à qui j'ai dit, mais quand tu vois une info, on pourrait parler de désinformation, etc. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour faire de la désinformation. Et moi j'ai toujours aux gens, essayez toujours d'avoir au moins deux ou trois sources différentes venant d'un peu de trois univers différents. Et c'est la même chose pour ChatGPT. ChatGPT dit un truc, très bien, vérifie en fait. Si c'est un truc un peu sensible, évidemment, si c'est les horaires de la boulangerie, oui, tu peux y aller, mais je pense, peut-être pas. Mais en général, sinon, si c'est un truc un peu plus sensible, vérifiez quoi.
Ce qui est grave aussi, c'est de se dire qu'on puisse avoir des IA qui ne sont pas totalement neutres.
Bah surtout quand on parle de Grok, effectivement. Oui. Enfin bon, d'ailleurs, ce n'est pas que le cas de Grok, j'imagine.
Oui, puis on a des chaînes de télé qui ne sont pas totalement neutres non plus, c'est ici ça, en c'est France. Ça. Maintenant, le problème, c'est voilà, où est-ce qu'on se sert, comment on trouve les bonnes infos avec les outils d'aujourd'hui. Ce qui fait peur aussi, c'est les moteurs de recherche basés sur l'IA. Est-ce que notre métier va aussi évoluer ?
Probablement, de toute façon oui, il est déjà en train d'évoluer, il y a beaucoup de sites qui font des news en IA totale. Moi je fais de la vidéo, pour l'instant on est encore relativement tranquille parce que la vidéo ça se voit en général quand c'est de l'IA, mais pour l'instant, si ça se trouve dans deux semaines ça sera plus le cas quoi. Donc, évidemment il y a beaucoup plus de méfiance à avoir sur tous ces sujets là. Après, en ce qui concerne le journalisme, pour moi il y a des choses qui peuvent être positives. Je sais qu'il y a des sites en France, notamment Le Monde, ils utilisent de l'IA pour booster un peu leur moteur de recherche. Dieu sait que nous, chez Numérique, notre moteur de recherche aurait bien besoin d'être boosté. ça peut être un truc intéressant. Tu vois, ça peut être utiliser un outil qui existe déjà pour avoir une recherche plus précise sur ton site. Tant que tu gardes le contrôle un peu dessus, c'est intéressant, je trouve. Ça peut fonctionner, quoi. Maintenant, utiliser de l'IA pour écrire des articles, pour faire de la recherche d'informations, pour faire de la retouche photo, des choses comme ça, c'est... À quel point c'est une pente glissante ? Moi, je ne veux pas juger les gens pour utiliser des nouveaux outils. Quand Internet est arrivé, je suppose que plein de gens ont dit « Ah oui, mais Internet, ça va vous laver le cerveau, machin, etc. » Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, quoi. Donc pour moi, l'IA, c'est une étape aussi importante qu'Internet. C'est un peu une hot take. Mais je pense que contrairement à tout le tintouin qu'il y a eu sur le Web 3.0, le métavers, etc., ouais. Que tout le monde a oublié depuis...
Pas de souvenirs. Ça m'a pas particulièrement marqué. Tu vois.
Ouais. Mais à l'époque, tout le monde parlait que de ça. Et ben, je pense que là, pour le coup, on est devant un truc qui va vraiment changer les usages de tout le monde, y compris dans la presse. Et donc, il ne faut pas fermer les yeux et dire c'est un truc de pestiféré, on n'y touche pas. Ouais. Mais il faut aussi faire attention à garder des bonnes pratiques. Quoi.
Et être conscient que l'IA peut aussi être orientée.
Bien sûr.
Ça devient aussi un choix politique d'utiliser certaines IA ou non.
Ouais, et puis il faut voir à quel point... aussi, alors je ne sais pas si c'est déjà mesurable, mais à quel point il n'y a pas le même effet de bulle qu'il y a sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter à l'époque, et même sur X aujourd'hui. Est-ce que si tu discutes, si tu es d'extrême droite, par exemple, et que tu dialogues tous les jours avec ton IA préféré, est-ce que ton IA préféré va te juste servir les mêmes trucs que tu vois partout et aller un peu dans ton sens, ou pas ? Sachant que, par exemple, en ce qui concerne Grok, moi je vois souvent, alors j'ai quasiment plus sur X aujourd'hui, mais j'y vais quand même de temps en temps pour le taf surtout, et je vois souvent des gens, alors maintenant j'ai l'impression que sous tous les posts sur X maintenant il y a quelqu'un qui dit Grok, qu'est-ce que t'en penses, ou explique-moi ça, quelque chose
exactement,
comme ça.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est que souvent, je sais pas si c'est très souvent, mais en tout cas je l'ai vu plusieurs fois et j'y vais pas souvent, donc ça doit être quand même à une fréquence assez élevée, Grok va pas dans le sens des gens, parce que je pense que les gens qui postent ces trucs-là s'attendent à avoir une position très grog, quoi, très, très Elon Musk sur, sur certains sujets.
Extrême.
Et en fait, parfois, bah, comme c'est une IA et qu'il prend juste le maximum de sources possibles pour donner un avis le plus complet possible, bah, en fait, si ce qu'on lui propose, c'est des contre-vérités, bah, lui, il va dire « Ah ben non, en fait, il y a ça, ça, ça. » Alors, c'est pas toujours le cas, encore une fois. Des fois, il va dire n'importe quoi aussi. Mais j'ai l'impression quand même que parfois, c'est peut-être un moyen de sortir un peu de, des œillères qu'on a habituellement. Mais c'est vrai aussi que généralement, rien que la manière de poser une question à une IA est déjà un peu orientée. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un chien. Et quand mon chien a des problèmes de santé, je demande avant... Enfin, pour avoir un premier avis, je vais plus sur Google, parce que si tu tapes « mon chien se gratte », Google te dit « comme pour un humain, il a un cancer », quoi, en gros. Alors que ChatGPT, lui, il va être très... c'est très dérangeant, d'ailleurs. Il est très dans l'empathie, c'est très bizarre. Il va te dire « ah oui, mais t'inquiète pas, là, ton chien va bien, tu as bien fait les choses, etc. Voilà ce qu'il faut faire. » Et à la fin, ça finit toujours par « si ça a fait ça, 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 appelle le veto », ce qui est très bien. Mais il a ce truc qui est très bizarre. Alors, je pense que Gemini, ça va être pareil. D'essayer de te rassurer et de te dire tu fais les choses bien, et j'en ai parlé avec d'autres gens qui ont le même réflexe, et il y a toujours ce truc qui revient de ne t'inquiète pas, c'est pas lié à toi, ce que tu fais c'est très bien, machin. Et ça, c'est un peu flippant, je trouve, quand même.
Parce qu'il comprend que là, tu parles de ton animal de compagnie.
Et que t'es un peu angoissé.
Ouais.
Il comprend que t'es angoissé, et pourtant, moi, j'écris surtout, je lui parle de plus en plus, parce que c'est souvent plus facile de pas avoir à taper le truc. Mais en général, j'écris plutôt. Mais il ressent quand même qu'il y a une angoisse un peu du truc, et il a compris qu'il fallait que c'était bénéfique pour lui, je pense aussi, parce que effectivement, ça renforce, entre guillemets. Alors moi, j'analyse beaucoup ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent peut-être pas forcément compte. Et je pense que ça, il y a une impression de renforcer le lien avec ChatGPT qui est un peu dérangeant quand même. C'est un
ça
peu bizarre.
Ça peut être cringe, ouais. On parlait tout à l'heure de ce que ça pouvait changer nous en tant que journalistes. Ça veut aussi dire que l'IA vient pomper aussi ce qu'on peut nous produire. Tu vois ça comment, le fait que l'IA se serve dans nos sites et pas forcément seulement les nôtres?
Mal. je vois ça mal. Non, mais bah, ça, pour le coup, c'est aussi une grande question. Mais comme là, quand je dis que c'est un truc aussi important qu'Internet, en fait, pour moi, il y a trois étapes. C'est Internet, les réseaux sociaux et l'IA maintenant. Et quand les réseaux sociaux sont arrivés, la question... Cette question exacte s'est posée. Mmh. Et on a mis, je sais pas, 10 ans au moins à avoir une loi européenne là-dessus qui s'appelle les droits voisins. Enfin, c'est pas le nom de la loi, mais c'est le truc abrégé, quoi. Et donc, bah, ça va forcément... Enfin, ça va probablement...
Ça fout le bordel dans ce...
Oui. Non, mais complètement. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont arrivés, ils ont dit... Enfin, et Google, ils ont commencé à piocher sur les sites. Donc, au bout d'un moment, l'administration a dit « Non, mais attendez, les gars, vous pouvez pas juste prendre des sources et gagner de l'argent grâce à ça et rien reverser aux entreprises de presse. » Et l'IA fait exactement ça, sauf que l'IA, c'est encore plus massif parce qu'ils servent dans les encyclopédies, ils servent beaucoup sur Reddit aussi. Il y a eu toute une bisbille un peu entre Reddit et notamment OpenAI, il me semble, justement par rapport à ça au tout début de ChatGPT. Et je crois qu'au final, ils ont passé un deal évidemment très lucratif. Parce que, bah, Reddit, c'est encore plus grave, je trouve, parce que Reddit, c'est un forum
géant,
gigantesque.
Quoi,
donc c'est vraiment pomper les données, enfin pomper les...
De gens qui ne sont pas forcément légitimes.
Ouais, c'est ça, légitimes, et puis qui n'ont pas donné leur consentement à ça. Alors je suppose que maintenant dans les conditions d'utilisation de Reddit, il doit y avoir un truc là-dessus, j'imagine. Mais c'est quand même Reddit, c'est à la fois, alors il y a plein de gens illégitimes effectivement, mais il y a aussi du savoir sur absolument tout. C'est impressionnant, il y a des subreddits sur tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et donc en ce qui concerne la presse, c'est pareil. Enfin, il va falloir à un moment donné rétribuer les entreprises de presse parce que c'est elles qui fournissent les contenus. Et donc il faut effectivement qu'il y ait une transaction qui se fasse, mais ça va prendre du temps. Et il y a déjà des entreprises, comme je disais tout à l'heure, Le Monde a dû un peu faire ça aussi quand ils ont fait leur deal avec Perplexity. Donc il y a aussi déjà un peu de ça, mais c'est pas encore un
mouvement collectif.
Non, c'est ça. C'est, en général, c'est t'as les grosses entreprises qui s'avancent un peu sur ce terrain-là au début. Ça ouvre un peu la voie, et puis ensuite il y a des accords qui sont faits soit au niveau des branches, soit au niveau européen. Mais ça prend du temps. Et les droits voisins, ça a pris énormément de temps avant de se faire. Donc là, je pense que ça va être pareil, et c'est difficile c'est difficile de se défendre contre ça, parce qu'en plus de ça, contrairement pour le coup aux réseaux sociaux, là on est sur un truc où à la fois les IA s'abreuvent de nos contenus et nous on s'abreuve des IA pour, enfin nous, quand je dis nous, c'est les médias de manière générale, s'abreuvent des IA pour alimenter leur site, etc. Donc c'est, en plus, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue, quoi.
Ça risque de dévitaliser aussi les contenus.
Ouais, bah complètement. Et puis en fait, on va se retrouver avec des gros acteurs qui arrivent à s'en sortir et qui peuvent garder une rédaction fournie, etc. Et des petits sites qui vont virer tout le monde et qui vont garder genre un rédac chef ou un truc comme ça, et qui vont juste aller chercher des trucs à droite à gauche, faire bosser des IA et puis basta, quoi.
Ouais. C'est pas vraiment ce qu'on veut.
Non, c'est pas ce qu'on veut. Bah, c'est normalement, la loi sert à ça. La loi sert à empêcher ça. Mais bon, on a vu déjà plusieurs fois que la loi n'était pas toujours hyper efficace pour nous protéger.
Et ça touche pas seulement la presse, ça touche aussi le domaine culturel, artistique. Je sais pas si tu as vu la pétition qui a été signée par 700 artistes, dont Scarlett Johansson, la plus connue, qui elle est toujours très très remontée niveau IA. Mm-hmm. Ils ont signé une pétition dénonçant l'usage de leurs œuvres par l'IA sans autorisation. Ils parlent carrément de vol. Toi, tu trouves ça juste ou trop caricatural ?
Je pense qu'ils ont raison. Je me demande maintenant, peut-être pas pour tous ces gens-là, mais il y a déjà beaucoup d'acteurs qui ont passé des deals justement avec des boîtes qui font de l'IA pour monnayer leur image et pour qu'après leur mort, on puisse utiliser leur image et leur voix, etc.
Et il y en a d'autres qui ont carrément, enfin, voilà, pour eux, c'est pas du tout un sujet. Il y a Chris Pratt, là, l'autre crétin, dans son film, là, il a carrément dit « Oui, vu que je suis censé jouer avec une IA, bah, je voudrais que l'actrice en face de moi soit une IA. » Et tout le monde lui dit « Non, Coco, c'est pas une bonne idée.
» Non, voilà. Il y a des gens qui sont plus ou moins au fait, on va dire, de la gravité de la situation. Je pense aussi que dans la pétition, alors, je sais pas, je veux pas diaboliser les gens, mais je serais curieux de savoir combien font ça pour se dire, en fait, ça serait bien qu'il y ait des deals qui soient faits de manière générale avec des boîtes, et ça peut vraiment être très lucratif.
Histoire de mettre,
quoi,
la pression pour derrière pouvoir...
Peut-être que je suis un peu complotiste sur les bords en disant ça, mais bon, je serais pas étonné de voir dans quelques temps des gens signer, alors peut-être pas Scarlett Johansson, je sais pas, mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça, donc ça m'étonnerait pas. Après, j'espère aussi que dans l'eau, il y a effectivement des gens qui sont vraiment passionnés, qui veulent défendre leur truc. Je sais que toi, tu connais plein de gens qui bossent dans le doublage notamment. Et là, pour le coup, c'est...
Ça a été le sujet d'un autre épisode, ouais. Mais effectivement, ils sont nombreux à essayer de se battre pour. Et pour l'instant, au niveau du gouvernement et du ministère de la Culture, ça ne bouge pas des masses.
Non, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde qui est régi quand même par l'argent. Et je pense que beaucoup de boîtes qui emploient des entreprises qui font du doublage ont des dollars dans les yeux, quoi. Enfin, ils se disent, OK, donc là, en fait, vous êtes en train de me dire que je vais pouvoir payer, je ne sais pas... 2000 balles par an, un truc qui fait du doublage en IA, là où je devrais payer 2000 balles par mois, une boîte dont c'est le métier pur et dur, quoi. Et si ça se trouve, dans 10 ans, le résultat sera quasiment le même, quoi. Moi, je pense que le résultat sera jamais le même, mais je suppose que, en fait, dans 50 ans, discerner une vraie voix d'une voix d'IA, ça sera la même chose que discerner si t'écoutes Deezer ou Spotify, quoi. Enfin, ouais.
Par exemple, des majors comme Disney ont signé des contrats autorisant l'usage de leur licence auprès de ChatGPT, c'est-à-dire que maintenant carrément tu peux utiliser Mickey, Minnie, Star Wars, que tu
directement
veux,
sur Disney+. Plus.
Voilà, c'est incroyable.
Bah ouais, c'est incroyable. Et c'est incroyable parce que c'est d'autant plus incroyable que pour moi c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Vraiment, je comprends pas comment ces boîtes-là peuvent voir aussi court-termiste, quoi. Peuvent être aussi court-termiste parce que, enfin, si tu nourris comme ça une IA avec des dessins d'exception de d'animateurs de chez Disney ou de chez Pixar ou de chez DreamWorks ou de ce que tu veux. Bah, l'IA va dire OK, vas-y, bah, je prends.
C'est la valorisation de ce travail.
Quoi. Et puis dans 15 ans, tu feras plus la différence entre un dessin fait par une IA et puis un truc sorti par Pixar, quoi.
Mais économiquement, ça mène à quoi ? Parce que c'est les deals, donc forcément, il y a de l'argent en jeu. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, l'IA sera plus chère ou moins performante ou à la rigueur plus saine, parce que de la même manière que ce sera sourcé, certaines images seront sourcées en disant voilà, inspiré d'eux, je sais pas.
Je suis toujours très pessimiste sur quand il s'agit d'affaires économiques. Le capitalisme a tendance à vraiment avoir une vision très court-termiste. Donc j'espère que effectivement ça va donner. J'espère qu'il va y avoir les bonnes personnes qui vont s'emparer de ces sujets-là et qu'on va du coup avoir des règles qui vont être mises pour justement protéger au maximum la propriété intellectuelle, les artistes qui font les dessins, qui font les voix, etc. Mais j'y crois pas trop, quoi. Enfin,
est-ce que le pouvoir est pas aussi dans la main des utilisateurs, des spectateurs, des lecteurs?
Ouais, ça, c'est toujours... Oui, mais bon, c'est comme toujours. À chaque fois que tu dis qu'il faudrait boycotter tel truc ou tel truc, peut-être que beaucoup de gens vont le faire. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas, j'espère.
On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs.
Et, je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler, mais c'est exactement la même question que pour la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde aux États-Unis, tu vois, où de plus en plus de gens commencent à parler de boycotter parce que Donald Trump, etc. Au final, je pense que la Coupe du Monde aux États-Unis aura totalement lieu et
tout le monde va la mater à la télé sans problème.
Tout le monde va y aller et surtout, moi, je pense que des équipes devraient même pas y aller en fait, mais je pense qu'ils vont y aller. Voilà.
On en est déjà sur l'étape d'après, mais il y en a un qui a la bourre côté IA, c'est Apple, hein, qui doit s'en remettre à l'expertise de Google dans le domaine avec un Siri 2.0 qui serait une sorte de Gemini déguisé. Est-ce que, à ton avis, pour toi, c'était inévitable ?
Bah ouais, Apple, ils ont. On en a parlé, on avait fait une vidéo il y a quelques temps sur le manque d'innovation d'Apple qui est un peu. Ils ont un peu sorti la tête de l'eau cette année avec les derniers iPhone 17, etc. Mais surtout sur le hardware. Sur le software, ils ont pris un retard de fou. J'aimerais bien être une petite souris et voir ce qui se passe dans les bureaux d'Apple et voir ce qui s'est passé dans les bureaux d'Apple pour qu'ils loupent ça.
Puis beaucoup de défections, il y a beaucoup de gens qui sont barrés.
Est-ce que, ça
sent pas très bon, quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du top management, t'as des gens qui ont dit non, mais l'IA, laisse tomber.
Forcément, des gens
pas,
qui n'ont pas cru, quoi.
Ouais. Est-ce que, parce qu'en plus, ça coïncide aussi avec le moment où ils ont fait l'Apple Vision Pro. Et alors, est-ce qu'ils ont vraiment voulu mettre toutes leurs ressources sur la réalité mixte et en se disant c'est ça le pari de l'avenir et voilà, ce qui du coup est un mauvais pari, puisqu'on le voit maintenant, c'est compliqué, même si l'Apple Vision Pro, c'est un produit incroyable, hein, mais personne ne l'achète et tant mieux, enfin, je veux dire, parce que personne n'a d'usage pour ça. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est assez inquiétant qu'une entreprise comme Apple, qui a toujours été plutôt à la pointe sur tout ce qui est soft, etc., en soi, de devoir
demander à son principal concurrent,
ouais, discuter avec Google, qui en plus ne fait que gonfler son monopole, enfin qui c'est pas un monopole parce qu'ils sont pas tout seuls, mais en tout cas son emprise sur la tech, etc. Donc
bon, pour finir, on parlait choix politique, on parlait alternative peut-être plus vertueuse. Il y a Blue Sky qui a connu un petit moment de hype en 2025. Les gens ont tenté de quitter X à cause de toute cette histoire autour d'Elon Musk et de l'utilisation qu'il faisait de son média. Bon, 6 mois plus tard, on ne peut pas dire que ça a vraiment pris. À l'heure où la France veut lancer une alternative à Zoom, que tu as l'Union Européenne qui veut faire sa version de Twitter, est-ce que c'est raisonnable?
Donc c'est W, c'est ça ouais. le projet de l'Europe? Je sais pas. Là, j'avoue que je suis sceptique. En fait, Blue Sky, c'est marrant parce que je suis retombé il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est... Enfin, c'est très bien en fait Blue Sky, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de monde, quoi. Donc du coup, les algos sont moins performants.
On retrouve le Twitter des débuts, en fait.
Bah, des tout débuts, quoi. Oui, parce que, mais du coup, voilà. Après, est-ce que c'est... Après, moi, je serais toujours plus pour des initiatives entre guillemets publiques si c'est l'Union Européenne qui lance un truc. Mm-hmm. Je trouverais ça toujours intéressant. Après, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont vouloir aller sur une plateforme pilotée par l'Union Européenne? J'en doute fortement.
Est-ce que c'est pas trop tard, surtout?
Est-ce que c'est pas trop tard? En plus, maintenant, il y a Threads aussi qui a pris une place, je pense, qui est assez importante. Sur le marché, X finalement a pas tant dérégolé que ça, un petit peu quand même, mais pas tant.
Et puis le fait d'avoir vidé la salle des sensibilités peut-être plus progressistes, on se retrouve avec un X qui reste campé sur son ADN.
En fait, moi surtout, ce que je vois sur X quand j'y retourne, c'est que c'est vraiment plus que jamais le réseau de la Discord, quoi. C'est-à-dire que c'est uniquement des invectives, c'est uniquement, alors pour moi les deux trucs qui sont le moteur de X aujourd'hui, c'est les clashs entre des gens qui se connaissent ou pas, enfin voilà, et les private jokes. Je suis choqué à chaque fois que j'y vais du nombre de gens qui mettent une photo et qui mettent genre on sait tous, et tu sais, genre, et donc dans les commentaires t'as que des gens qui sont ah ouais, enfin tu sais, qui comprennent tous le truc, et on dirait qu'il y a maintenant il y a des mèmes internes à X que personne d'autre ne comprend en dehors de ça. Et c'est vraiment devenu une espèce de vase clos gigantesque. Donc moi j'aimais beaucoup Twitter avant, donc je suis un peu triste. Blue Sky, expérience intéressante, mais compliquée. Je pense que le truc des instances et tout, ça a un peu rebuté des gens. Ne parlons même pas de Mastodon qui est vraiment un sous-marin, quoi. Donc les initiatives alternatives, pourquoi pas, mais en fait. Clairement, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit très porteur aujourd'hui, le microblogging, comme on appelait ça à l'époque. Mmh. Je pense pas que ce soit là-dedans que... Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que Blue Sky ait subi, ait eu un succès phénoménal, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas finalement peut-être pas tant d'appétence que ça pour ce format-là, quoi. Puis ce qui a le vent en poupe maintenant, c'est la vidéo, les formats courts, les formats extrêmement condensés où t'as le plus d'infos possible en le moins de temps possible. Des formats que les gens accélèrent en appuyant sur l'écran. Enfin, moi, même je le fais hein, aujourd'hui.
Si vous avez le temps, retrouvez-nous sur les numériques. Bastien, on te retrouve sur Blue Sky, en format court, en format long, sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
Sur Blue Sky, pas trop.
beaucoup
oui.
moins.
Et c'est très punchy, vous inquiétez pas, sur TikTok et Instagram.
Bastien, merci. Prochaine fois, on se fait une spéciale tech dans les parcs d'attractions, parce que je sais que c'est ton kiff.
Avec grand plaisir.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre mise à jour. Ciao.
Retrouvez l'émission, ainsi que tous les podcasts des numériques, sur notre site lesnumériques.com et vos plateformes de streaming préférées.